Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, j'ai, pour intituler ces propos qui seront modestes, et je l'espère pas trop longs, j'ai osé reprendre comme titre celui d'un remarquable recueil d'essais de critique littéraire qu'avait donné naguère le révérend Père Blanchet de la Compagnie de Jésus, le critique littéraire de la revue Études. Pour lui, la littérature ne méritait que l'on ne s'y intéressât que lorsqu'elle posait des questions proprement spirituelles. Je crois qu'il n'avait pas tort, ni lui ni quelques autres. Je ne veux pas ici me comparer, puisque je dois vous parler de l'exercice de mon métier de professeur de littérature, je ne veux pas me comparer au regretté révérend Père Blanchet, mais enfin, ce titre me paraît, dans l'exercice de mon métier, toucher à l'essentiel. Comment, en effet, parler de littérature à des étudiants? Et, plus simplement et radicalement encore, pourquoi parler de littérature à des étudiants? Ces deux questions, qui sont étroitement liées, me paraissent impliquer que préalablement, l'on s'entende sur une définition de ce qu'il faut entendre par littérature. Alors, je ne veux pas m'égarer dans de trop amples définitions, simplement, je trouve que le littéraire et que le spirituel sont si inextricablement noués que je ne parviens pas, et je m'y résigne volontiers, rassurez-vous, je ne parviens pas à concevoir d'enseignement de la littérature, ni du reste de critique littéraire, qui puisse se dispenser de poser, et sans cesse, au début comme à la fin, la question religieuse. Alors avec de telles données, vous devinez que je tiens la laïcité à laquelle, en tant que fonctionnaire, je suis tenu dans les universités qui veuillent bien m'accueillir. Cette laïcité, je la tiens pour un leurre, et je me réjouis fort de pouvoir, et même de devoir, tenir les deux bouts de la chaîne à la fois, le littéraire et le spirituel, en tant qu'enseignant dans des maisons catholiques. Au reste, je suis si peu laïque que j'ai pris, étant mieux l'habitude, de me comporter en catholique, aux grandes dames de la laïcité, où que je sois. Pourquoi faudrait-il parler de littérature d'abord, ce sera mon premier point, à des étudiants, si il s'avérait, ce que je ne veux pas croire, que la littérature est œuvre humaine, seulement humaine, trop humaine. Saint Augustin, dans les Confessions, dit « Qu'est-ce que l'homme, quel que soit l'homme, s'il n'est qu'un homme ?» Si la littérature n'est qu'affaire d'homme en cette acception, pourquoi diable faudrait-il en faire objet d'enseignement universitaire? Ma question est saugrenue, me direz-vous, je ne le crois pas. Veuillez observer que, depuis déjà quelque temps, immanquablement des assauts sont donnés par tous les gens sérieux, ou qui passent pour tels, qui se croient tels, qui nous gouvernent, des assauts sont donnés contre ces disciplines luxueuses, de fait marginales, disent-ils, que sont l'histoire, la philosophie et maintenant la littérature. Il est bien certain que lire des livres, et surtout anciens, n'a aucune espèce d'utilité, voilà le mot, dans la société de l'image, du taux de rendement, du sondage d'opinion et de l'équilibre de la balance du commerce extérieur. Bon, il ne sert à rien, évidemment, de lire de la littérature. Donc, l'université est obligée contre cette vague que je trouve, on va me taxer de pessimisme, très forte en ce moment, contre les choses de l'esprit. Il faut que l'université justifie la présence dans son corpus d'enseignement de la littérature. Alors la raison officielle, la plus souvent retenue, qui autoriserait l'enseignement de la littérature, c'est, dit-on, que la littérature est une composante de notre culture. Je veux bien, et même j'en suis assez intimement persuadé. Mais je sais trop, vous aussi je pense, que la culture requiert bien d'autres matières. Le mot est atroce. Ce mot de matière concernant les choses de l'esprit, je ne pense pas que ces inventeurs sous la Troisième République fussent là tout à fait innocents. Bon, il y a d'autres matières composantes de cette culture que l'on nous demande et que la modernité, du reste, vante. Vous le savez, un homme cultivé se doit bien sûr de connaître quelques livres, mais aussi de connaître des pays, des musiques, des sports, des expériences, que sais-je. Un bric-à-brac Je ne suis pas sûr que, du côté de la tradition catholique, l'on ait assez lu ce livre, pourtant si vif et si précis, d'Alain Finkielkraut sur la défaite de la pensée. Finkielkraut dit très bien que la culture ainsi entendue, et les gens qui l'entendent en ces termes sont familiers du Panthéon à deux pas, ou ils accompagnent quelques défunts qui leur sont chers, les tenants de cette culture-là, qui n'est jamais qu'une espèce de melting pot ou de décharge où l'on fourre n'importe quoi, d'abord, n'est-ce pas, sont victimes d'une sorte de prêt-à-porter culturel, et on fait entrer dans la culture indifféremment tout ce qui est à la mode, le pire et le meilleur, et puis d'autre part, cette conception-là du tout culturel n'est jamais qu'un salmigondi. La littérature, dans tout cela, est un objet culturel parmi d'autres, et quand on est enseignant ou étudiant, il a autant d'intérêt que n'importe quel autre objet culturel, c'est-à-dire, à la limite, pas grand intérêt. Le professeur n'a plus guère de raison de parler de la littérature autrement qu'il pourrait parler de n'importe quel artefact culturel. J'ai parlé le jargon d'aujourd'hui. On ne saurait parler de la littérature spécifiquement. Finalement, dans un enseignement, il faudrait parler de la littérature comme font les journalistes qui présentent les informations dites générales sur des chaînes de radio spécialisées dans le robinet âgé continu d'informations. Et l'on nous parle avec les mêmes mots et exactement le même ton du héros d'un fait divers, de l'écrivain, de l'homme politique, de l'actrice de cinéma, du footballeur ou surtout de l'homme médiatique à la mode. Tout ceci, n'est-ce pas, est comme nivelé. Je me permets de penser que cette définition de la littérature comme simple objet culturel, parmi d'autres, n'est pas très satisfaisante. Plus honnête, sans doute, serait de parler de la littérature comme d'un simple divertissement. Bon, c'est du reste ainsi qu'en parlent beaucoup de magazines qui placent la littérature à côté, les romans qui paraissent, à côté du compte-rendu de la dernière opérette, on dit comédie musicale, du dernier voyage dans des îles riches en plages et en cocotiers, ou de la dernière table du restaurant gastronomique le mieux connu. Alors j'avoue qu'il est en effet beaucoup de livres très futiles qui méritent ce statut d'objet de divertissement. Il n'y a pas lieu de les traiter différemment. L'ennui, c'est, car il y en a un, c'est que parler des livres d'autrefois en tant que simple article de divertissement, c'est malaisé. L'histoire nous apprend que nos ancêtres ne se divertissaient pas exactement comme nous. Et ce qui amusait fort les contemporains de Louis XIII, à savoir la littérature galante et précieuse, aujourd'hui est assommant à périr. Comment m'y prendrais-je pour présenter cette littérature de divertissement là? Et puis bien sûr, tous les livres ne sont pas de divertissement, et bien des écrivains qui les firent ne s'amusèrent guère à les composer. Quant à ramener la littérature à du divertissement, je me demande bien pourquoi des étudiants entraient des universités pour entendre disserter sur du divertissement. À leur âge, on peut s'amuser mieux et ailleurs. D'où la solution de repli de l'université laïque depuis le XIXe siècle. Ce serait, nous dit-on, au nom de l'histoire, qu'il faudrait que professeurs nous parlassions des livres et qu'étudiants nous les lussions. Témoins des hommes, monuments de l'histoire de l'humanité, patrimoine, dit-on, traces du passé, signes d'autres cultures et d'autres sensibilités. Bref, ces livres, ainsi définis, il faudrait que par eux, nous puissions accéder à la connaissance de notre passé. Dès lors, la littérature, quand on est professeur et qu'on en parle, devient un objet historique, à étudier historiquement. J'ai déjà dit, en cette belle enceinte, l'an dernier, tous les inconvénients de l'historicisme en matière de critique littéraire pour un unique avantage, à savoir les apparences de l'objectivité. Car quand on traite historiquement d'un objet, quel qu'il soit, il est entendu que l'on se doit de pratiquer une méthode scientifique, que donc l'on met entre parenthèses, si faire se peut, et on le peut, sa subjectivité, et que l'on repousse le jugement de valeur le plus loin possible à l'horizon de notre recherche. Mais parler de la littérature en termes historiques, et simplement historiques, ce n'est guère exaltant. Je pense que étudiant ou adulte, et lisant comme moi ces innombrables petites collections destinées aux lycéens ou à la clientèle des universités, qui toutes immanquablement présentent les grands textes littéraires avec une préface historique qui nous dit le contexte, quel qu'il soit, mais historique toujours, ces préfaces sont d'un ennui épouvantable, véritable remède à l'amour ou à la littérature. Je conçois qu'après de telles préfaces historiques, les étudiants laissent tomber le livre de leurs mains. Je vois aussi que, ainsi qualifiés historiquement, tous les livres se mettent à se ressembler, car tous ont en commun une seule et même historicité. Et puis surtout, si l'on aime l'histoire, je l'aime passionnément, rassurez-vous. Il va de soi que la littérature n'est pas le meilleur document à exploiter. Si vous voulez connaître les mœurs de la province française sous la monarchie de Juillet, la presse rouennaise des années 1840 est un bien meilleur document que Madame Bovary. Et les archives des sociétés de charité au XVIIe siècle sont beaucoup plus riches d'enseignements que Tartuffe. Allons vite aux documents et aux bons, et laissons de côté la littérature. Alors, cette matière mal définie qu'est la littérature, d'aucuns qui l'aiment se résignent à en parler comme ils la lisent, et puisqu'ils l'aiment, ils en parlent amoureusement. Et c'est ce risque d'esthétisme dont parlait à l'instant mon collègue M. Vien. Mais alors, la critique et l'enseignement qui s'ensuit se trouve sur une pente qui conduit droit à l'impressionnisme. Je sais bien que la lecture est un plaisir, et certains titres de grands ouvrages critiques, je pense à Plaisir et lecture de José Cabanis, ou Mon plaisir en littérature de Paul Morand. Bon, certains titres insistent sur le plaisir que donne la littérature. Mais au bout du plaisir, il y a souvent le narcissisme. Anatole France, sceptique, disait très bien en 1888 que le bon critique, tel que lui l'entendait, bien sûr, est celui qui raconte les aventures de son âme au milieu des chefs-d'œuvre. Alors cette critique-là, nous la connaissons très bien, vous et moi, nous eûmes des professeurs charmants, mais ridicules, ou gentiment ridicules, dès lors, n'est-ce pas, qu'ils nous confiaient leurs états d'âme à propos des livres qui les avaient marqués. Les cours se réduisaient à des pamoisons, ou alors l'on entendait dire, n'est-ce pas, d'un écrivain chéri, c'est un homme qui a, un homme, enfin, je cite la Molière. Bon, c'est vrai, n'est-ce pas, qu'un écrivain est un homme qui, c'est un peu court, si l'on peut dire. D'autant que Proust là nous l'a bien enseigné, l'homme qui fait un livre, quelquefois n'a pas grand rapport avec le livre qu'il crée. Et c'est souvent tant mieux, les livres valant souvent beaucoup mieux que leurs auteurs. Faut-il mentionner des approches stylistiques de la littérature? Elles sont à la mode, les universitaires les aiment. Ce travail, n'est-ce pas, de très patiente et lente étude des formes et des styles, travail qui semble objectif, bien sûr, puisqu'il s'agit de traiter de quelque chose, d'une chose, de cet objet qu'est le livre, ainsi écrit, ou les manuscrits qui ont précédé le livre, quand on les possède. On soumet tout cela à une dissection très précise. Le jugement de valeur peut sans doute advenir. Cette approche a l'immense mérite de révéler un peu celle qui, très mystérieusement à la lecture, fait le charme d'un beau livre. Je veux bien admettre, n'est-ce pas, que la critique stylistique pénétrant les formes, et les formes sont toujours liées à des significations, nous approche un peu du cœur du sanctuaire qu'est le livre. Malencontreusement, la pratique, et je parle là d'expérience et personnelle, la pratique de cette approche stylistique de la littérature, puisqu'elle est elle-même démontage, déconstruction, de cet objet qu'est le livre, décomposition de cette somme que forme une œuvre, cette approche en vient presque immanquablement à suggérer aux professeurs qui ainsi procèdent et aux critiques qui ainsi agissent que la littérature, elle aussi, serait à l'opposé construction, montage, composition, l'analyste que le professeur est amené à bricoler, et il en vient, bon gré mal gré, à croire que l'écrivain aussi est un bricoleur, qui fabrique des effets rhétoriques, qui structure ses phrases, qui compose son roman. Tout cela est vrai, mais est évidemment insuffisant. Et l'acte d'écrire, même si d'aucuns parmi les écrivains se sont fait passer pour des horlogers, ou pour des travailleurs au métier, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, l'on fabrique un livre comme l'on fait une pendule, assurez la bruyère. Bon, tout cela n'est que très partiellement vrai, et en tout cas, l'acte d'écrire n'a rien à voir avec l'artisanat, ou au pire, n'est-ce pas, le jeu de mécano. Je sais bien que certains livres sont fabriqués par des bricoleurs sortis des arts et métiers. Je pense ici au nouveau roman, ou à la littérature industrielle, ou à de la littérature expérimentale. Et traiter Rob Grier, Raymond Queneau, ou l'auteur d'un roman de la collection Harlequin, comme un fabricant ayant un tour de main, des tours de métier, appliquant un manuel, respectant un certain nombre de codes, c'est très bien. Mais je ne crois pas que ni Rabelais, ni La Fontaine, ni Stendhal n'aient ainsi composé. Alors, dans la pratique de mon métier, je me résigne mal d'abord à enseigner autre chose que la littérature. La communication ne m'intéresse guère. Je n'ai pas envie non plus de tenir la littérature pour un objet culturel comparable à bien d'autres et qui n'aurait de signification que dans cette espèce de décharge ou de salmigondie qu'est la culture telle qu'on l'entend aujourd'hui. Je ne crois pas que la littérature, la grande, celle qui m'émeut et m'élève, soit pur divertissement. Je ne me résigne pas à en faire une superstructure historique qui n'aurait d'intérêt que de renvoyer à autre chose, à savoir les mœurs de nos anciens. Et puis, je suis un homme d'aujourd'hui. Je ne vis pas autrefois, en un sens. Je ne veux pas donner à n'importe qui, c'est-à-dire aux étudiants, la clé du jardin secret de mes petites émotions littéraires, et je vous avoue n'être pas diplômé de l'école des arts et métiers, donc je ne me résigne pas à tenir la littérature pour un jeu de mécano. Simplement, je crois que l'on peut cesser de tourner en rond si l'on daigne revenir, et c'est là peut-être œuvre de bon sens, chose du monde la moins partagée. Je crois qu'il faudrait revenir, quand on est professeur chargé d'enseigner la littérature, à ces évidences auxquelles on réfléchit trop rarement, que sont, quand on est lecteur, l'expérience même est très singulière de la lecture d'un grand livre, et quand on est écrivain, à l'expérience de la création. Dans les deux cas, me semble-t-il, il y a là une aventure, très étrange parce que profonde, humaine, évidemment, mais probablement plus qu'humaine. Je m'explique. Je prends d'abord le point de vue du lecteur. Quand nous lisons, et une œuvre d'art, il ne s'agit pas de lire ici un roman de gare ou le code de la route ou un menu. J'entends un livre, un vrai. Quand nous lisons une œuvre d'art et que cette œuvre d'art nous enchante, bon, nous sommes évidemment comblés, remplis par nos lectures, mais simultanément ou peut-être préalablement, en bonne partie préalablement, car avant même que de lire un livre, vous prenez le risque de jouer le jeu qui sera celui-là même de la lecture, donc vous vous engagez à respecter les règles de ce jeu, simultanément, il me semble que tout lecteur se trouve comme vidé de lui-même. Il faudrait ici que longuement je m'attarde, rassurez-vous, je ne le ferai pas, sur les admirables remarques qu'a prodiguées Julien Gracq dans son petit livre intitulé « En lisant, en écrivant ». Julien Gracq dit bien, n'est-ce pas, que la lecture, ce sont des lieux communs, mais enfin il faut les dire, lui les dit très bien et vivement. Quand on lit, et un grand livre, notre lecture nous exige cet effort, exige de nous cet effort très singulier d'accepter que nous nous laissions déposséder de notre moi usuel. Notre temps intérieur ordinaire se trouve comme aboli. terre se trouve comme abolie, le monde alentour de moi n'existe plus, je suis, comme l'on dit, dans mon livre, possédé par mon livre. J'ai une famille et des enfants, même en bas âge, ils peuvent hurler de faim à la mort, le ciel peut tomber, je m'en moque. Je suis dans ce recueil de poèmes ou dans ce roman et tout entier absorbé par lui. C'est que j'ai accepté que ma personnalité, d'une certaine façon, se renouvela entièrement. Je m'oublie moi-même pour être, par exemple, l'espace et le temps de ma lecture, pour être ce personnage de roman que j'accompagne. Je ne conserve de mes expériences intimes ou de ma culture, je ne conserve que cela seul qui peut aider ce texte, ces personnages, ces paysages, cette situation, que sais-je, ce livre en un mot, à prendre vie en moi-même l'espace de ma lecture. Autrement dit, mon moi qui est en train de lire, c'est comme, ne disons pas métamorphosé, mais purifié, élevé, j'offre à ce livre, pour qu'il soit par moi lisible, au fond, le meilleur de moi-même. J'ai curiosité pour cette intrigue, mais cette curiosité est disponible, patiente, ouverte, attentive, ingénue, en quelque façon. À mon âge, on a une curiosité passablement émoussée, pas quand je suis lecteur d'un livre. Je garde, envers cette histoire, une confiance d'enfant. Je marche. Je veux marcher, je ferai tous les efforts qu'il faut pour retrouver une ingénuité perdue afin que ma lecture puisse se poursuivre. Et, par exemple, je ne me souviens des êtres que j'ai rencontrés que pour les comparer à des personnages de romans, mais bien sûr, je préfère les personnages de romans qui me paraissent dans ma lecture, au moment même où je prends le livre et où je le lis, plus vrai et plus intéressant que tous les êtres de chair et en os, et moi-même du reste, que j'ai pu connaître. Tous les jardins que j'ai parcourus durant mon existence, je m'en souviens sans doute, quand je lis, mais je leur oppose et je leur préfère les parcs des fêtes galantes, ou le jardin de Madame de Mortsauf à Clochegourde, ou ce jardin enchanté où Julien Sorel avec Madame de Rênal s'amuse à chasser des papillons. Dirais-je avec La Bruyère, dans les caractères, que quand une lecture vous élève l'esprit et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger de l'ouvrage. Il est bon et fait de main d'ouvrier. Je dirais presque ce que dit La Bruyère, car quand je lis, ma lecture me contraint à la disponibilité, à la confiance, à la générosité, à la complaisance pour ce que je suis en train de lire, et j'ai l'impression que c'est toujours le meilleur de moi-même qui se trouve comme élevé, extirpé de mon identité usuelle, qui est plutôt médiocre. Je crois pouvoir aller plus loin aussi. Toute lecture, Sartre l'a très bien dit dans « Qu'est-ce que la littérature ?» Toute lecture, puisqu'elle est un acte de ma liberté, m'oblige à me compromettre dans l'acte même de lire jusqu'à offrir, tout ou partie, je ne sais trop, mais jusqu'à offrir quelque chose de ma liberté à cet ensemble de signes imprimés, couchés sur du papier relié, qui est un livre. Si le livre prend vie et devient véritablement un livre, c'est parce que j'ai accepté de me donner à lui. J'ai consenti à le lire. Sans moi et ma générosité, ce livre et tout autre livre est du papier mort, un objet mort, foncièrement inintéressant. C'est par moi et ma lecture que Julien Sorel, ou que Rastignac, ou que Thérèse d'Esqueyrou vivent l'espace de ma lecture. Sinon, ils n'existent pas. Ils sont dénués de toute existence. Et les romanciers et les poètes le savent très bien, les dramaturges aussi, qui, n'est-ce pas, escomptent que le lecteur fera une partie du travail. Le romancier procède par allusion, ou ménage un blanc, et c'est l'impatience, l'intelligence, au fond, le don de soi du lecteur, qui comble cet hiatus, qui remplit ce blanc, et qui fait le travail que le romancier n'a pas voulu faire, et lui laisse à faire. Les points de suspension, aussi, fonctionnent de la sorte. Au fond, même, n'est-ce pas, quand le texte est explicite, se développe, se déroule, et par sa qualité se prête à la lecture que j'en poursuis, Il demeure que le texte d'un livre ne peut développer toutes ses significations que grâce à mon intelligence de lecteur, qui est patiente, docile, ouverte, séduite, bien sûr, mais si je suis séduit, comme toujours, c'est parce que j'ai bien voulu, au départ, me laisser séduire. J'ai donc répondu à l'appel que ces signes imprimés m'adressaient. J'ajoute, enfin, que toute lecture d'un chef-d'œuvre, je ne parle que d'eux, bien sûr, nous entraîne, que nous le voulions ou non, dans l'univers qui est toujours singulier, que forment ensemble tous les livres d'un même écrivain, et Proust l'a dit et l'a prouvé par son œuvre, cet univers qui est celui d'un auteur est infiniment plus profond que ne peut l'être tout ce que la biographie d'un auteur peut nous apporter. Autrement dit, lire un livre, c'est aller à la rencontre d'un homme, son auteur, et c'est se risquer à travers le livre et par le livre en lui. Je cite Jean-Paul Sartre, une fois n'est pas coutume. Plus nous éprouvons notre liberté de lecteur, plus nous reconnaissons celle de l'autre, de l'auteur. Plus il exige de nous et plus nous exigeons de lui. Alors cette expérience, qui quelquefois est troublante, de l'entrée du lecteur en autrui, dans le monde qui est celui d'une autre subjectivité, celle de Proust, celle de Flaubert, que sais-je. Bon, les poètes, bien sûr, me la procurent, cette expérience, et aussi les romanciers, à telle enseigne que lisant des poèmes, plus d'une fois, j'ai le sentiment d'être, quand j'aime ces poèmes, et qu'ils sont grands, d'être Baudelaire ou d'être Verlaine. Et lorsque je lis un roman, plus d'une fois, j'ai l'impression d'être le romancier lui-même, tenant les ficelles de ses personnages, conduisant l'intrigue. Je cite ici Julien Gracq. Dans tout livre, même anonyme, quelqu'un est là, l'auteur, qui vous fait du début à la fin les honneurs de son domaine et de la compagnie duquel il n'est pas question de se libérer. Alors, si vous me suivez, et si vous admettez que dans toute lecture d'un grand livre, il y a cette triple expérience, métamorphose, ou disons, épuration de notre propre personnalité, sacrifice de notre liberté à ce livre, pour qu'en nous et par nous, ils vivent. Et enfin rencontre, quelquefois troublante, de quelqu'un d'autre, à savoir l'auteur. Bon, cette expérience-là de la littérature, si c'est cela, la littérature, quand on la lit, d'abord, ça n'a rien à voir avec ce que l'on nomme à la va-vite plaisir, d'une part, et puis ensuite et surtout, au plan psychologique, cela est une aventure très profonde. Et ces épreuves, ou ces expériences, qui me semble inhérente à toute lecture d'un grand livre, me paraissent ressembler à s'y méprendre à ce qui arrive dans une autre sorte d'expérience qu'on en nomme l'amour et dans ses formes, cette fois, les plus hautes. Quant à l'entreprise d'écrire un livre, bon, elle aussi, là-dessus je suis plus rapide, n'étant pas écrivain, mais d'aucun parmi les écrivains se livre et disent chacun à leur façon, presque toujours, la même chose. Écrire un livre, c'est affaire primordiale de liberté et de générosité. Bon, le geste même d'écrire, c'est un appel à autrui, quelquefois pathétique. L'on n'écrit jamais, quand on est écrivain, pour soi seul. L'on écrit toujours, a priori, vers quelqu'un d'autre. L'écriture, comme l'on dit maintenant, est évidemment sacrifice. C'est un métier que de faire un livre, disait La Bruyère. C'est aussi un tourment, quelquefois une passion. Nous pensons aux affres de Flaubert, à Proust agonisant dans sa chambre tapissée de liège, où cet asthmatique s'éteignait toujours à la besogne. Bon, il faut construire l'œuvre, il faut conduire l'intrigue, il faut nourrir les personnages de sa propre substance. Madame Bovary, c'est moi. Bon, c'est une des significations du mot de Flaubert. Je trouve que c'est un des immenses mérites de la critique génétique, celle qui s'occupe, n'est-ce pas, des conditions d'élaboration même du livre, de nous laisser entreapercevoir cette immense activité, si coûteuse quelquefois, qu'est la mutation par un écrivain de sa biographie, de ses expériences et de sa culture en cet enfant, d'une certaine façon, qui est son livre. Bon, l'écrivain subit aussi, comme le lecteur, une expérience de déperdition, mais volontaire, d'identité. Celui qui écrit n'est pas tout à fait ni jamais entièrement, celui qui par ailleurs vit. Je pense à cet écrivain que je connais, que je ne nommerai pas, qui eut comme vous et moi une vie médiocre et un métier qui n'est jamais qu'un métier. Bon, et qui toute la nuit, toutes les nuits se relève seul pour écrire dans une maison déserte. C'est quelqu'un d'autre qui, là, n'est-ce pas, est à l'œuvre pour nous donner des livres incomparables de critiques littéraires ou des romans. Et puis, l'écrivain qui donne naissance à des paysages ou à des personnages de romans ou de théâtre, quelle expérience, là encore, est profonde et quelle aventure. Bon, des personnages qui sont nourris de lui-même, nourris aussi de tout ce que l'imagination des lecteurs a pu jeter en eux, et ces personnages écrire la fin, et notamment religieuse, qu'elle souhaitait avoir. Flaubert, obsédé par Madame Bovary, voyageant avec elle en Égypte, et devant Carnac, disant « ça y est, j'ai trouvé son nom ». Il ne pensait qu'à Madame Bovary lors de son voyage en Égypte. Bon, anecdote peut-être, mais bien des écrivains vous diraient peut-être plus simplement cette expérience-là. Alors si l'écrivain à écrire goûte, je veux bien le croire, quelques plaisirs, je crois aussi que l'écrivain, quel qu'il soit, quand il écrit, est celui qui, de façon exemplaire, et Mauriac l'a rappelé dans Le Romancier et ses personnages, vit les grandeurs et les misères aussi, d'une expérience qui, si elle n'est pas la création, y ressemble beaucoup. Mauriac dit que les romanciers sont les singes de Dieu, Dieu créant ex nihilo, et hélas, le romancier ne le pouvant point. Cette expérience de création littéraire, quand on est écrivain et qu'on écrit, ressemble, elle aussi, à une expérience d'amour, ou en tout cas, elle requiert beaucoup d'amour. Alors, si la littérature, n'est-ce pas, telle que j'essaie de l'enseigner, telle qu'on la lit, est telle qu'elle s'élabore, si vous me suivez, si la littérature est telle, comment, quand on est professeur, faudrait-il ne pas s'appliquer à en parler comme l'une des œuvres humaines, ou a priori, dès lors, n'est-ce pas, qu'elle est ainsi écrite et ainsi lue, une des œuvres humaines où, a priori, toute notre humanité s'exprime dès lors qu'elle tente, par quelque chose qui ressemble à l'amour, de s'aventurer hors de sa finitude et de dire son espérance, non seulement du beau, je laisse les questions esthétiques de côté, mais dire son espérance d'une réciprocité dans le don, une espérance de la confiance éperdue en autrui. Moi, lecteur, je fais confiance à l'auteur. Lui, auteur, fait, quand il écrit, confiance au lecteur. Contrairement aux apparences, je crois pouvoir dire que s'il y a un lieu où l'égoïsme se trouve conjuré, c'est bel et bien la littérature. Alors, vous comprenez que je ne m'embarrasse guère de prudence laïque. Je dis ouvertement et tranquillement d'ailleurs qu'à l'origine de tous les livres, il y a le livre par excellence, la Bible, qu'à l'origine de toute lecture et de toute critique, il y a cette lecture par excellence qui est l'exégèse du livre. Toute littérature, me semble-t-il, en creux ou en relief, bien sûr quand elle est grande, je laisse de côté Nathalie Sarraute et la collection Arlequin. Bon, mais toute littérature, n'est-ce pas, quand elle est grande, en creux ou en relief, positivement ou par les voies négatives, me paraît dire un drame spirituel. Chaque grand livre est une vision du monde où, évidemment, Dieu compte, qu'il soit à l'origine ou qu'il soit au terme. Au fond, en matière de critique littéraire, je tente, modestement, car je n'ai pas son génie, je tente de suivre l'admirable exemple laissé par Charles Dubos, lui aussi obsédé par les rapports entre la littérature et le spirituel. Il ne voulait pas juger les livres, les grands livres, seulement, disait-il, les apprécier, et pour ce faire, s'en approcher, et sympathiquement, c'est-à-dire sacrifier toutes nos réserves et passer le pas, essayer autant que faire se peut de s'installer dans le livre, dans le monde si admirable qu'il forme quand il s'agit d'un chef-d'œuvre, et une fois installé dans le livre, tenter de coïncider par sympathie toujours avec ce que fut la conscience créatrice de l'auteur. Bon, cette façon d'aborder les chefs-d'œuvre, Charles Dubos l'a prouvé,
immanquablement, elle révèle à notre sympathie de lecteur ou de critique, chez l'écrivain, une attitude souvent morale, plus souvent qu'on ne le dit métaphysique, spirituelle toujours. Et les livres ainsi abordés ne déçoivent jamais, dès lors, n'est-ce pas, que l'on y retrouve, ou plutôt que l'on y découvre, parce qu'il faut faire la part de nos habitudes de mauvaise lecture. Donc dans ces livres, ainsi lus, on y découvre, porté comme à l'incandescence, en raison même du talent de l'écrivain, le meilleur et le pire de nous-mêmes, c'est-à-dire la réponse que nous donnons à l'amour que Dieu nous porte, ou le refus que nous lui opposons. Pour terminer, j'ajouterai que prenant au sérieux à ce point, comme vous le voyez, la littérature, mais je m'autorise quelques scepticismes devant les traditions de l'université, et notamment les classifications et classements en forme de palmarès consacrés par l'usage. Je trouve qu'il est navrant de perdre son temps sur des livres vains, bibelots d'inanité sonore, coquilles vides, purs exercices de rhétorique, ou comme disait Sainte-Beuve, littérature industrielle. Nous n'avons ici-bas qu'une vie, que je sache, autant courir au chef-d'œuvre et, dans le restant de la production, ne retenir que ces livres, et heureusement ils sont légions, qui, de qualité moyenne, néanmoins de qualité, ces livres qui disent ou qui trahissent cela seul qui nous intéresse, le drame de notre salut. Ou alors, quand les programmes que universitaires je suis obligé de suivre, hélas, je ne les détermine pas toujours, quand les programmes me conduisent à m'occuper de littérature de pacotille ou de brocante historique, je vous assure que l'occasion est toujours bonne, il faut la sauter dessus, on la prend, et grâce à cette occasion, on peut mesurer, c'est utile, comment et pourquoi un livre peut être à ce point décevant. Je veux conclure, oui, un catholique, s'il est universitaire comme moi, je réponds aux questions de Monsieur le Recteur, ne peut que se tourner vers le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, l'art, et notamment la littérature. Cette littérature, ainsi entendue, réserve à cet enseignant catholique, comme à tous, des joies profondes, mais elle réserve particulièrement aux lecteurs catholiques des leçons profondes et souvent émouvantes. Oui, je crois qu'il est une façon chrétienne de lire les livres, mais je crois aussi que cette façon là, de lire les livres, devrait être celle de tous les universitaires, car cette façon-là d'approcher les livres me paraît être la seule qui touche un peu à ce qu'est vraiment la lecture et à ce qu'est vraiment l'écriture. Oui, je suis très heureux d'être universitaire et catholique, catholique et universitaire. Simplement, je m'étonne, et je me désole bien sûr, qu'il y ait tant et tant d'universitaires, et même catholiques, qui se tourmentent l'esprit, j'espère pour eux qu'ils sont au moins très malheureux, pour faire comme si les livres dont ils parlent ne signifiaient rien. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, monsieur. Vous avez pleinement répondu à la question que nous nous posons tout au long de cette journée. Peut-on être catholique et universitaire? Votre propos me rappelait celui de Massis à propos de Proust, qui dit qu'il y a même dans Proust, surtout dans Proust, une profession de foi, mais en creux, à contrario. C'est un monde où la transcendance n'apparaît pas, et c'est comme ça qu'elle y apparaît. Et
oui.
Y a-t-il quelques questions? Votre appétit n'est peut-être pas celui auquel nous pensons, monsieur Lanavert et moi. Appétit de science, de savoir, n'est pas altéré, assoiffé. Alors, comme vous frisez tous plus ou moins, semble-t-il, l'hypoglycémie, nous allons vous laisser vous restaurer. Et je remettrai sur le grill, si monsieur le président Beignet, qui doit me succéder, le veut bien, nous remettrons ce nouveau Laurent sur le grill, qui est monsieur Lanavert. Vous pourrez lui poser des questions tout à fait fortes.